Bonjour à tous et à toutes, il est 18h et tout de suite c'est Première Page sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Non, c'est pas vrai!
Qu'est-ce que tu dis?
Maman ne m'a pas puni, elle n'a pas bien écrit.
Qui t'a dit comme t'avais puni?
C'est écrit là.
Voyons, voyons, mais... Tu sais lire?
Première Page, c'est la chronique littéraire pour lecteurs décomplexés. Un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris. Dans ce sixième épisode, nous mettrons à l'honneur le roman graphique avec Lou Sonata de Julien Neal. Quand l'héroïne d'une BD devenue iconique fait sa rentrée à la fac, c'est une page qui se tourne pour toute une génération de lectrices. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le sixième épisode de Première Page, un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre, avant l'âge de 6 ans. Laissez-le encore un peu faire l'enfant.
Lou, c'est l'une de mes multiples Madeleine de Proust. Quand je découvre le tome 1, j'entre tout juste au collège. Elle fait partie de ces bandes dessinées qui ont accompagné cette sombre période qu'est l'adolescence. C'est l'une de ces BD que je m'empressais de chercher au CDI ou dans la bibliothèque de mon village. Je pourrais vous parler des Nombrils, de Seul, des Yoko Tsuno, mais Lou a toujours eu une valeur toute particulière à mes yeux. À l'occasion de cet épisode, je me suis donc replongée dans mes lointaines années collège auxquelles je dédie cet édito. Quand je découvre cette bande dessinée, j'entre en sixième. Mon film préféré, c'est LOL, de Lisa Azuelos. J'écoute Coldplay, Pink, Katy Perry, dont je suis assidûment les clips sur W9. À la télé, c'est Undo Stress et Smallville, mais ce que je préfère, c'est jouer à la Nintendo DS, à Professor Layton et Animal Crossing. Je commence enfin à lire un peu, avec Twilight et la série policière Cherub. J'aime danser, j'aime écrire et grimper en forêt. Mes seules préoccupations dans la vie sont mes compétitions de gym, mes copines et les garçons, bien évidemment. La sixième, c'est l'année charnière. On entre tout juste dans la préadolescence, on joue au grand, dans un grand collège avec des nouvelles matières, des nouveaux profs, des contrôles aux enjeux considérables, mais en même temps, l'enfance n'est jamais loin. On délaisse tout juste Gulli et nos cartes d'idoles que l'on sera tout de même bien contente de retrouver certains week-ends. Le collège, c'est ingrat. Le corps change et pas toujours comme on l'espère. Les jalousies entre amis, les groupes, les ragots n'ont pas été laissés à l'école primaire. On apprend à se connaître, on teste ses premières limites, mais en réalité, on a beau faire les grands, tout cela nous échappe bien souvent. Ce qui permettra d'après moi à Julien Neal de marquer une génération tout entière avec Lou, c'est la justesse avec laquelle il parviendra à retranscrire cette fameuse période. Car finalement, cette saga, c'est juste l'histoire d'une petite fille comme les autres. Alors si Lou m'a suivi toute mon adolescence, lorsque j'ai appris qu'un nouveau volume dédié à son entrée à la fac venait de paraître, j'étais contrainte de céder. Rangez vos iPod Nano, posez ce Scooby-Doo, l'épisode du jour est dédié à Lou Sonata de Julien Neal. Avant d'introduire cette saga et son héroïne, une petite présentation de son auteur s'impose. Julien Neal, c'est un réalisateur et auteur français de bande dessinée. Son grand-père et son père étaient dessinateurs, sa mère institutrice. Né en 1976, c'est un touche-à-tout. D'abord dans le graphisme, il fera de la publicité et même des cartes postales. Quand Jean-Claude Camano, le directeur de la collection de BD jeunesse Cho, le contacte, c'est un tournant dans sa carrière. Ce dernier repère son travail sur Internet et lui demande d'écrire une série pour le magazine éponyme. L'auteur vient tout juste d'avoir une fille et c'est donc tout naturellement qu'il crée en 2004 le personnage de Lou. Une interview parue en 2020 de Julien Neal, interrogé par Valentine Canal pour The Sundial Press, a été un réel support pour mieux comprendre le créateur de cette saga et sa démarche artistique. Je recommande sa lecture aux aficionados de la BD. On apprend notamment que ce dernier entretient un rapport tout à fait personnel avec son héroïne. Il assume notamment s'être inspiré en grande partie de son enfance pour écrire Lou. C'est sûrement le réalisme et l'authenticité de cette démarche qui vaut le succès public et critique quasi instantané de la saga. Le tome 1 remporte d'ailleurs en 2005 le prix Jeunesse des 9-12 ans au Festival international de la BD d'Angoulême. En 2018, avec son 8e tome, la première saison s'achève et une intégrale sort l'année suivante. Série animée, long métrage, album jeunesse, Le Monde de Lou ne cesse de se réinventer et touche un public toujours plus grand. En 2020, Julien Niel débute une nouvelle saison et passe d'un format industriel, soit 46 pages couleur, au roman graphique. Si dans le premier tome, notre héroïne a 12 ans et prend un an à chaque parution, dans ce dernier tome, Lou a 20 ans et démarre sa vie d'étudiante. Mais alors Lou Sonata, ça parle de quoi ? Alors, pour vous présenter la Lou qui ouvre la saison 2, je me dois de faire une petite rétrospective de la saison 1. Julien Niel nous raconte l'histoire d'une fille qui grandit dans une petite ville avec sa mère et son chat. Très complice avec cette dernière, elle ne connaît pas son père. Ayant les parents divorcés, l'auteur a lui aussi été élevé par sa mère. Si ce dernier a en revanche connu son père, il tenait à mettre en valeur le modèle monoparental, d'après lui sous-représenté dans le genre. La saga s'ouvre donc sur une petite vie tranquille entre l'appartement, le collège, les dîners pizza chez Gino et les mésaventures du quotidien. Les enjeux, les passions de notre jeune héroïne évoluent avec les tomes ainsi que les personnages qui gravitent autour d'elle. On retrouve donc sa mère, passionnée de jeux vidéo, écrivaine de romans de science-fiction, dont la frange et les grosses lunettes sont devenues emblématiques de la série. Sa grand-mère, plutôt aigrie, dont les remarques acerbes viennent rythmer ses rares visites. Mina, sa meilleure copine de toujours. Richard, le nouveau voisin qui ne semble pas laisser sa mère indifférente. Et enfin, il y a Tristan, son jeune voisin, son premier amour, auquel suivront un certain nombre de prétendants. Si le tome 1 s'ouvre sur ce petit échantillon de personnages, des protagonistes dans Lou, il y en a un très grand nombre. Ayant chacun et chacune des personnalités, des passifs et des évolutions réfléchies et bien construites. Nombreux, mais toujours surprenants, contrairement à ce qu'on s'attendait à voir dans une bande dessinée pour enfants, les rôles sont loin d'être manichéens. Il n'y a pas de gentils et de méchants, mais des personnages complets, nuancés. Enfin, qui est notre héroïne ? Lou, c'est une petite fille blonde au look dément. Extravertie, artiste passionnée, elle est constamment en quête de nouvelles expériences. Au fil des tomes, on suit l'évolution de cette dernière, de sa famille, son cercle d'amis et sa vie sentimentale. Les thématiques et les lieux changent selon les numéros, marquant par étapes la personnalité de la jeune fille et de son rapport au monde. Lou, c'est la bande dessinée qui fait du bien. Quel que soit l'âge, on retrouve forcément un tome qui nous correspond, soit pour une intrigue que l'on a vécue ou pour une histoire qui nous permet de nous évader. L'un des objectifs de l'auteur était d'éviter l'écueil de la bande dessinée dite « girly ». Ce n'est pas une BD pour les filles, mais une BD sur la vie d'une fille et de ses proches. D'ailleurs, dans une interview, Julien Niel dit que Lou est en réalité une sorte de coquille vide. Chaque lecteur y projette sa propre vision du personnage en fonction de son vécu. L'ouvrage est ouvert à toutes les interprétations. On retrouve d'ailleurs régulièrement des grandes planches sans bulles, laissant le lecteur se projeter dans les pensées de l'héroïne. En basant son intrigue sur une adolescente et une adulte en devenir, l'auteur évoque aussi la sexualité, le désir, la puberté, avec une approche nuancée et évolutive, bien loin du problématique guide du zizi sexuel sorti quelques années auparavant. Lou, c'est une vie de bohème, un personnage libre, autonome, courageux, qui donne envie de vivre sa vie le plus fort possible. C'est également des sujets plus durs sur la famille, l'amitié, la quête identitaire. La question du père absent revient notamment régulièrement au fil des tomes. Enfin, c'est une approche philosophique sur la difficulté à trouver sa place dans ce vaste monde et comment, malgré les obstacles, les erreurs, les doutes, parvenir à trouver le beau, à rendre la vie toujours plus belle. Dans Lou Sonata, notre héroïne rentre à la fac. Après un long voyage initiatique solitaire dans l'épisode 8, le premier tome de cette saison 2 s'annonce comme une nouvelle aventure pour la jeune femme qui quitte sa ville et sa famille. Elle déménage seule avec son chat pour commencer un cursus universitaire dont on ne sait trop quoi, mais qui s'apparenterait plutôt à de la philosophie. Toujours présentée comme un personnage sociable, extraverti, brillant, On s'attend donc à une énième belle expérience humaine. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Mais alors, pourquoi ai-je tant aimé ce tome ? Dans Lou Sonata, Julien Neal prend un réel tournant. Comme il le dit en interview, en faisant le choix de basculer sur le format du roman graphique, l'auteur prend le temps, va au bout de ses idées et produit un très bel objet littéraire. Il s'amuse également avec des extras. En effet, l'auteur accompagne le volume d'une bande-son vouée à accompagner la lecture de l'ouvrage. Disponible sur Spotify, la création de cette playlist a nécessité un groupe qui voit le jour pour l'occasion, les Crystal Zealots. Au-delà du tournant artistique, j'ai adoré ce tome pour ses choix scénaristiques. J'avoue qu'à mesure que les tomes passaient, je me détachais de plus en plus de Lou. Non pas que les épisodes ne me plaisaient plus, mais je trouvais son personnage de plus en plus éloigné de mes réalités, d'une maturité et d'une confiance qui n'étaient clairement plus à ma portée. Je découvre Lou Sonata en début d'année, soit 2 ans après sa sortie. C'est dire si j'avais laissé la saga de côté. Au moment où notre héroïne entre à la fac, j'ai déjà achevé mes 5 années d'études supérieures. Je découvre alors ce roman avec un recul et un apaisement sur ces années bien complexes. Car oui, la fac pour moi n'a pas été de tout repos. D'abord rythmée par les transports, j'ai finalement eu la chance d'avoir un appartement, mais la distance n'a pas été simple à tenir. Et puis la fac, c'est dur. La pression, les partiels, les exigences des profs, la difficulté à se faire de nouveaux amis, tout en dealant avec une nouvelle ville dont on n'a pas les codes. Non, vraiment, mes années universitaires n'ont clairement pas été les plus belles. Or, je me suis rendu compte que mon témoignage sur cette période n'était pas si rare. Nombreux et nombreuses ont comme moi été marqués de plein fouet par le changement brutal de ces années, subissant la désillusion d'un monde qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Mais cette vision, je l'ai peu retrouvée dans les références culturelles que j'avais sur le moment. En redécouvrant Lou, à la même place auquel je m'étais trouvée 5 ans auparavant, je m'attendais à aborder un énième récit cliché sur la fameuse rentrée universitaire inoubliable. La découverte heureuse d'une nouvelle ville, l'épanouissement des études, les soirées, les rencontres. Mais en réalité, Julien Neal casse complètement cette image préconçue des années fac et livre une vision tout à fait nouvelle de son héroïne qui perdait, je trouve, en authenticité. En réalité, l'épisode commence à l'image de l'univers de la bande dessinée. Petit pincement au cœur au moment de son départ, car elle reste attachée à sa famille, mais la jeune femme est contente de partir, de découvrir de nouvelles choses. Comme d'habitude, il n'est jamais question d'angoisse, de stress particulier. Elle se laisse porter. Lou débarque donc dans une ville imaginaire, dans un petit appartement. Enfin, à l'image de l'univers de la bande dessinée. Le fameux logement n'est certes pas très grand, mais fait rêver. Petite mezzanine, belle lumière, ambiance chaleureuse, on est bien loin d'une chambre d'étudiant. L'arrivée à la fac est également lunaire. Elle tombe sur un prof complètement perché, hyper émotif, qui semble sur le papier correspondre parfaitement à l'univers de notre personnage. Mais en réalité, les cours ne se passent pas si bien et notre héroïne peine à faire sa place, brisant l'un des premiers mythes du personnage. Car oui, dans Lou, les relations sont relativement simples. Aucune difficulté à se faire aimer, que ce soit par sa famille, ses amis ou les garçons qui l'entourent. Grand bien lui fasse, me direz-vous. Mais il s'agirait après 8 tomes d'introduire un peu d'adversité. Si l'on a toujours admiré ce personnage pour sa capacité à se faire des amis, à parler facilement à des inconnus, à faire des rencontres, cette dernière enchaîne ici les déceptions et se trouve en réelle difficulté face aux individus qui peuplent cette nouvelle vie. Je pense notamment à un passage particulièrement malaisant où cette dernière tente de tisser des liens, mais se trouve complètement à côté de la plaque et en décalage complet avec les gens de son âge. Si certaines vieilles connaissances popent dans l'histoire pour lui rendre visite, en réalité, la jeune femme n'a jamais été aussi seule que dans ce tome. Ce qui est assez ironique lorsqu'on sait que dans le tome 8, cette dernière est en voyage solitaire. Mais ce n'est rien comparé à la déception de cette nouvelle vie qu'elle aborde. Enfin, pauvre Lou ! Mais rassurez-vous, malgré l'adversité, notre héroïne ne baisse pas les bras et continue à nous émouvoir, à nous faire rire et rêver. Et si la danse de la joie emblématique de la saga n'est pas de mise dans ce tome, que serait un épisode de Lou sans un peu de musique ? Pour rester dans un hommage à ses années collège, voici le titre de l'un de mes vieux groupes fétiches. «
to stand on the wooden floor. Out with a friend, I turn off all the lights and I watch the motorway, yeah, yeah, shining in the night. You say more when you sleep than when you try to speak. I can walk in your mind, I can leap into your mind.
C'était un extrait de I Can Walk In Your Mind du groupe The Servant. Vous écoutez Première Page, une chronique littéraire pour lecteurs décomplexés sur Radio Campus Paris 93.9 FM. L'épisode du jour porte sur le roman graphique Lou Sonata de Julien Niel. En lisant Lou Sonata, je retrouve la même ambiance nostalgique si singulière du tome 6, L'âge de cristal. Si je n'ai pas particulièrement aimé ce tome, je retrouve cette même ambiance déconnectée, en décalage avec l'univers et les couleurs solaires auxquelles nous a habitués l'auteur. Dans ce fameux tome, qui s'apparente à un ovni, des cristaux ont poussé dans la nuit recouvrant les parcs, le bitume, et Internet semble avoir disparu du jour au lendemain. Si Julien Niel avoue au moment de la création de ce tome porter une vision pessimiste sur le monde, il insiste sur la force de ces jeunes personnages dans cet épisode à passer outre ces changements, ces mystères, et leur capacité à vivre malgré tout. C'est d'autant plus parlant lorsqu'on sait que le tome sort l'année des attentats de Charlie Hebdo. Car Lou, c'est aussi ça, un regard toujours philosophique sur le monde et ses enjeux contemporains. En général plein d'espoir, souvent émouvant, le récit offre toujours un regard neuf sur ce monde, pas toujours rose, mais souvent rempli de belles surprises. En réalité, et c'est bien ce qui fait toute la différence avec ce dernier tome, on pensait connaître Lou, ses qualités, ses défauts, le personnage était acquis. Et pourtant, l'auteur nous dépeint une réalité bien plus nuancée. Je ne peux pas vous révéler la fin du tome au risque de vous gâcher sa lecture, mais je vous encourage vivement à la découvrir par vous-même. Que vous ayez, comme moi, passé cette étape de vos vies, que vous soyez en plein dedans ou que vous mettiez tout juste les pieds à la fac, prenez le temps de lire ce roman. Non pas pour vous préparer au pire, mais pour relativiser un peu l'envergure révolutionnaire de cette étape et se rappeler que parfois ça ne marche pas et que ce n'est pas une fin en soi. Car si l'on pense se connaître à la sortie du lycée et être enfin l'adulte qu'on a toujours rêvé d'être, on se trompe lourdement. Et je serais même tentée de dire que c'est maintenant que le plus gros se joue. 10 ans maintenant, après la découverte du premier tome, je ne pensais pas que Lou pourrait encore m'apprendre des choses sur la vie, que je pourrais encore en tirer des leçons. Et pourtant, découvrir cette bande dessinée a été une vraie bouffée d'oxygène et une manière de mieux comprendre et de relativiser cette période de ma vie et la personne que j'étais. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos héros et héroïnes de jeunesse et gardez l'esprit ouvert sur ce qui vous a animé plus jeune. Pour rester dans l'univers de Lou, je recommande d'accompagner votre lecture par l'écoute de Lou Sonata du groupe Crystal Zealot, disponible sur Spotify, de voir l'adaptation cinéma du premier tome Lou, journal infime, sorti en salle en 2014, pour découvrir notre héroïne sur grand écran, et enfin, de lire ou relire la saga, parce que ça fait toujours du bien. C'était le 6e épisode de Première Page, rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour une prochaine lecture sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.